Avez-vous déjà posé cette question? Est-ce qu'il y a un jour où Dieu rendra justice aux malheureux? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse des plus encourageantes, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a encore de bonnes questions à poser à la parole de Dieu aujourd'hui. Et je pense que plusieurs d'entre elles sont aussi vos questions. Ou du moins, elles ont sûrement traversé votre esprit à un moment ou à un autre. Alors les voici. Est-ce naturel pour ceux qui connaissent Dieu de le louer et de raconter ses merveilles? Y aura-t-il un jugement pour ceux qui ne délaissent pas le péché dans leur vie? Est-ce que Dieu est le seul à être entièrement juste? Est-ce que Dieu rendra justice aux malheureux un jour? Qu'est-ce que les épreuves produisent dans la vie des croyants? Qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut cacher quelque chose à Dieu? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous répondre, à répondre à toutes nos questions, par la parole de Dieu, bien sûr. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on a hâte d'entendre les réponses que tu vas donner à nos questions. On a besoin de ta parole. Viens nous fortifier par elle, par tes belles écritures que tu nous as données. Merci, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, nous avons monté un escalier qui servait de pont entre deux psaumes messianiques, c'est-à-dire les psaumes 2 et 8. Le psaume 8 fut le point culminant, et maintenant nous descendons de l'autre côté de la montagne. La descente se fera autour des 7 prochains psaumes, et ceux-ci racontent une histoire prophétique. Nous allons avoir un aperçu de la souffrance du reste du peuple juif à la fin des temps, ainsi que de l'impie qui doit encore venir. Les psaumes 9 et psaume 10 forment une paire. Ces deux psaumes sont structurés en un acrostiche. Si cela ne se voit pas dans la traduction, c'est très évident dans le texte original hébreu. Donc, la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament, et la Vulgate, traduction latine de la Bible, ont réuni ces deux psaumes en un seul. Ce psaume est attribué à David. De nombreuses suggestions furent faites au sujet de l'identité du Fils, suite à l'expression « meurt pour le Fils ». Cependant, G. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes, pense aux événements qui se sont produits en Égypte lorsque Dieu libéra son peuple de l'esclavage. Les premiers-nés d'Égypte moururent en une seule nuit. Le psaume 9 débute par des louanges. Chers amis, débutons notre lecture. Le psaume 9, les versets 1 à 3. Au chef des chantres, sur « Meurs pour le Fils », psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Ces louanges sont faites en anticipation de la victoire prédite au psaume 8, alors que toutes choses seront mises sous les pieds du Seigneur, qui fut temporairement fait inférieur aux anges. Ce psaume est une image prophétique de l'état de la planète alors que le Fils de l'homme aura reçu son trône de justice et de paix. Ces louanges anticipent la grande libération qui sera accomplie un jour. Nous avons une image de tout cela dans le livre de l'Apocalypse, alors qu'une foule loue ce grand Dieu. L'Église et les 24 anciens loueront abondamment ce Dieu. Lisons ensemble Apocalypse, chapitre 5, les versets 11 à 14. Je regardais. Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Celui qui connaît Dieu personnellement va partager et raconter ses merveilles. Un enfant de Dieu qui a goûté aux bénédictions du Seigneur ne peut rester silencieux. Poursuivons la lecture. Toujours le psaume 9, cette fois les versets 4 et 5. « Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. » Chers amis, assurons-nous d'être du bon côté, du côté de Dieu. Encore une fois, nous voyons une description de l'établissement du royaume mentionnée au psaume 8, alors que toutes choses seront mises sous ses pieds. Martin Luther ne tenait pas tant à avoir Dieu à ses côtés que de s'assurer qu'il était du côté de Dieu. David tenait à s'assurer que sa cause était juste. Mes amis, assurons-nous d'être du côté de Dieu. La présence de Dieu confond ses ennemis. David, la nation d'Israël et les chrétiens peuvent confirmer cela. Le jugement de Dieu est inévitable. Il se fera avec impartialité et sans erreur judiciaire. Nous avons un juste juge. Les jugements de Dieu ne sont pas tous remis au jour du retour du Seigneur Jésus. Si vous lisez les livres historiques de l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu en a déjà exercé plusieurs. De plus, vous trouverez des exemples de jugements parsemés dans l'histoire de l'Église. Dieu a jugé des nations et des individus. Puisse l'idée que nous pouvons être jugés par Dieu n'importe quand nous encourage à délaisser le péché dans notre vie. Les versets 6 et 7. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est perdu. Ceci décrit bien le jugement à venir. Tous les ennemis d'Israël seront vaincus. Dieu accordera cette victoire au reste d'Israël qui lui aura été fidèle. Ce type de jugement a débuté en Égypte. Un pharaon avait réduit le peuple de Dieu à l'esclavage, et plus tard, un pharaon a voulu faire périr les Hébreux, qui devenaient trop nombreux pour sa sécurité. Il aurait pu anéantir le plan rédempteur de Dieu. Depuis ce temps, les nations ont toujours haï Israël, et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Versets 8 et 9. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Chers amis, c'est Dieu qui détermine ce qui est juste. Il juge le monde avec justice, précise le texte. C'est très important. De nombreux juges ne sont plus sévères comme ils devraient l'être. Nous avons besoin de justice aujourd'hui. Dieu détermine ce qui est juste. Ce n'est pas nécessairement ce que je pense qui devrait être juste. C'est Dieu qui a séparé la lumière des ténèbres, pas moi. C'est Dieu qui l'a fait et c'est lui qui détermine ce qui est bien ou ce qui est mal. Si vous n'êtes pas de cet avis, vous êtes dans l'erreur, chers amis, car il en est ainsi. Quelqu'un doit faire des lois. Et c'est Dieu qui le fait pour son univers, c'est lui qui gouverne. Son gouvernement n'est pas temporaire ou transitoire, mais éternel. Les royaumes et les nations sont instables. Tous les empires ont fini par déchoir après avoir atteint l'apogée de leur gloire. Le royaume de Dieu demeure éternellement. Dieu est immuable et juste. La justice règnera pour l'éternité. verset 14. « Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. » Aie pitié de moi, Éternel. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. J'ai besoin de ce secours de Dieu. Versets 15 et 16. « Afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. » Regardez ce qui arrive aux puissances mondiales de nos jours. Les nations récoltent ce qu'elles ont semé. C'est la décadence totale. Nous ne pouvons pas faire confiance aux institutions politiques pour secourir le monde. Versets 17 et 18. L'Éternel se montre. Il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Jeu d'instruments, pause. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Un jour, Dieu fera justice à tous. C'est un principe immuable établi par Dieu. Verset 19. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Dieu rendra justice aux malheureux. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. Les malheureux sont oubliés aujourd'hui. Il semble qu'il y en ait toujours pour les riches alors que l'on coupe dans les programmes sociaux et les services de santé. Justice sera rendue aux malheureux lorsque le Seigneur Jésus reviendra. En fait, il faut s'intéresser davantage au Seigneur Jésus qu'aux politiciens. Les politiciens ne sont jamais d'un grand secours une fois élus. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Il n'a pas besoin de se faire élire. Il est déjà roi. À nous de le reconnaître. Il n'a pas besoin de plaire à tel ou tel parti, ou telle tranche de la population. La première fois que le Seigneur Jésus est venu, il accomplit pleinement la volonté de son Père. La deuxième fois, il accomplira sa volonté. Dieu rendra justice aux malheureux. Verset 20. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Les nations seront jugées, mais Dieu jugera les nations en jugeant les individus qui les composaient. Écoutez ce texte, tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » La suite de ces versets démontre que ce sont les individus que Dieu a jugés en jugeant les nations. Verset 21. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Pause. Certains tentent de prendre la place de Dieu. Goliath, Pharaon et bien d'autres personnages bibliques sont de pâles images de l'Antéchrist qui viendra un jour. Il sera l'homme de Satan, et il cherchera à remplacer Dieu. C'est ce que nous lisons, entre autres, dans certains textes de la Bible. Entre autres, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 10. « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Revenons à notre texte. Lisons ensemble le psaume 10, qui nous présente l'homme de Satan, appelé parfois l'impie, parfois l'antéchrist dans les Écritures. Le psaume 10, versets 1 à 3. « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu autant de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur, outrage, méprise l'Éternel. Le méchant est orgueilleux, et il se glorifie. Les méchants autour de nous sont ceux qui sont remplis d'orgueil et qui n'ont que faire de Dieu dans leur vie. De plus, ils se vantent ou se glorifient. Nous avons ici une description de l'Antéchrist qui se fera passer pour le Messie. L'orgueil est la caractéristique qui permettra de l'identifier. Chers amis, les épreuves rapprochent le chrétien de Dieu et, par le feu même, punissent les méchants. Par contre, les troubles du peuple de Dieu donnent l'occasion au Créateur de se glorifier. Nous l'avons vu dans le cas de Job. Les souffrances de Job, je doute que beaucoup de monde ait souffert autant que Job. Ces souffrances ont servi à le rapprocher de Dieu. Il avait entendu parler de Dieu, mais après l'épreuve, son œil l'avait vu. Autrement dit, Job a connu Dieu intimement. Les épreuves rapprochent le chrétien de Dieu et punissent les méchants. Plumet raconte l'expérience de Cécile, un chrétien qui souffrait dans son âme. Cet incident s'est produit au 19e siècle. Cécile faisait les 100 pas dans le jardin botanique de l'université d'Oxford, alors qu'il a remarqué un grenadier aux branches coupées presque au tronc. Il demanda au jardinier pourquoi l'arbre avait été coupé, et la réponse consola son âme en lui expliquant la raison de ses souffrances. « Monsieur, dit le jardinier, cet arbre était devenu si gros qu'il ne produisait que des feuilles. Donc, je fus obligé de le couper ainsi, parce qu'en faisant cela, l'arbre produira beaucoup de fruits. Chers membres du corps de Christ qui souffrait, soyez reconnaissants pour toutes les épreuves qui affaiblissent une convoitise ou qui renforcent une grâce de Dieu. Même si c'est une coupure au cœur, soyez reconnaissants pour tout péché ou idole émondée. Soyez reconnaissants pour tout ce qui attendrit votre conscience, qui rend vos pensées spirituelles et votre caractère conforme au Seigneur Jésus. Oui, chers amis, chers frères, soyez reconnaissants que ce soit un couteau d'émondage qui vous est touché et non un ciseau pour mauvaise herbe. Si vous souffrez en Christ, vous souffrez avec lui. Si vous souffrez avec lui, vous régnerez avec lui. Verset 4. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. L'Antéchrist sera un athée. C'est à l'époque de David que nous retrouvons les premières traces d'athéisme dans l'histoire. Auparavant, l'humanité était très près de la création. Noé a connu un homme qui a connu Adam. Lorsque tu es près de la création, il est moins probable que tu nies l'existence de Dieu. En fait, les 10 commandements ne disent rien au sujet de l'athéisme, mais ils condamnent le polythéisme, c'est-à-dire la vénération de plusieurs dieux. Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Citation d'Exode, chapitre 20, versets 3 à 5. L'Antéchrist sera un athée orgueilleux qui se glorifiera. Comment pouvons-nous connaître le Seigneur Jésus si nous ne le cherchons pas? Voilà la question, chers amis. Écoutez ces prochains textes. Jérémie 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Proverbe 8, verset 17. « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Deutéronome chapitre 4, verset 29. c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Promesse conditionnelle, chers amis. Nous trouvons Dieu à la condition de le chercher. Versets 5 et 6. « Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Aujourd'hui, les gens sont ainsi. Ils se vantent de leur réussite, de leur prospérité et de leur autosuffisance. Et ils ne perçoivent pas leurs besoins de Dieu. Verset 7. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Citation de Jacques, chapitre 3, versets 2 à 6. Si vous rencontrez un chrétien qui sait tenir sa langue, vous rencontrez un chrétien mature. Votre langue sert-elle à semer la discorde et l'amertume dans l'Église du Seigneur? Si oui, examinez votre cœur et demandez-vous qui vous servez. Versets 11 et 12. Il dit en son cœur, « Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. » Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. C'est une folie de penser que Dieu oublie nos péchés. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Le psaume 139, versets 2 à 4. Nous pensons nous en tirer en péchant contre Dieu et en pratiquant l'injustice. Dieu sait tout, et il n'oublie rien. Son jugement sera juste, car rien ne lui est caché. Nous ne pourrons pas mentir lorsque nous comparaîtrons devant lui. Verset 13. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, « Tu ne punis pas » L'Antéchrist haïra Dieu et il niera le jugement à venir. Aujourd'hui, une partie importante de la population nie l'existence de Dieu. Ou s'il existe, il est loin dans le ciel, il ne se soucie pas d'eux. Mes amis, si c'est ce que nous croyons, alors chacun peut faire ce qui lui semble bon. C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Si Dieu est la personne la moins populaire dans le monde présentement, c'est parce que ce sont les méchants qui sont au pouvoir. Bientôt, le péché des êtres humains entraînera l'avènement de l'Antéchrist. Seras-tu prêt? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant les psaumes 11 et 12. Bonne lecture et bonne réflexion à chacun.
Merci, Régent. Tu as cité les versets 2 et 3 du psaume 9 aujourd'hui. Et chaque fois que je lis ces versets, je suis porté à les chanter dans mon cœur, puisqu'un jour, quelqu'un a composé de la musique pour qu'on puisse les chanter. Je suis certaine que juste en les citant de nouveau, plusieurs croyants vont reconnaître ce chant. David dit, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Mes amis, quel contraste entre ce psaume, ce chant qu'on entend dans la bouche des croyants, et le fait qu'aujourd'hui, les gens, au lieu de dire ou de chanter ces belles paroles, se vantent de leur réussite, de leur prospérité et de leur autosuffisance. Régent a mentionné que ces gens ne perçoivent pas leurs besoins de Dieu. Ça m'arrive souvent de côtoyer des gens pendant un certain temps et d'en venir à leur dire combien Dieu nous aime et qu'il a donné son Fils Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et quand vient le temps d'inviter ces gens à prendre position, à recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, ils démontrent qu'ils préfèrent se confier dans leur réussite, dans leur prospérité, dans leur autosuffisance. Oh, mes amis, ma prière à Dieu, c'est que ceci ne soit pas votre cas. Ma prière à Dieu, c'est que peu importe qui vous êtes, vous puissiez parvenir un jour, avant qu'il ne soit trop tard, à reconnaître que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Jésus lui-même a dit que sans lui, on ne pouvait rien faire. Puissiez-vous laisser Dieu vous convaincre lui-même que vous êtes des pécheurs perdus, avec le besoin urgent de faire volte-face, de changer de direction à l'égard du péché et de demander à Jésus de vous sauver, de vous donner la vie éternelle. C'est ce que j'ai fait il y a plusieurs années et je ne l'ai jamais regretté. Parce que non seulement j'ai reçu ce beau cadeau que je ne méritais pas, mais même ma vie ici-bas sur cette terre est une vie abondante, riche en joie, en paix, en amour. Et cet amour, c'est l'amour de Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, crois-tu en Jésus? Crois-tu en Jésus seul pour recevoir le pardon de tes péchés et l'assurance de passer l'éternité au ciel avec Dieu? Beaucoup de gens disent qu'ils croient en Jésus, mais ils se croient obligés d'ajouter plein de souffrances et de bonnes œuvres pour être certains d'être sauvés. Mon ami, si c'est ça que tu fais de la peine à Dieu. Si tu m'offrais un cadeau pour mon anniversaire, est-ce que ça ne te blesserait pas que je t'offre d'en payer la moitié? Un cadeau, c'est un cadeau, c'est gratuit. C'est pour ça qu'on appelle ça un cadeau. Alors, mon ami, Jésus a payé très cher pour ce cadeau qu'il t'offre en ce moment. Il l'a payé de sa vie, en mourant sur la croix pour toi, pour moi. Et juste avant de mourir, il a dit, « Tout est accompli. » Mon ami, tout est accompli. Tu n'as qu'à recevoir ce cadeau que personne ne mérite. Jésus te l'offre maintenant, gratuitement. Dans l'Apocalypse, au 3e chapitre, verset 20, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon ami, ouvre la porte de ton cœur. Invite Jésus à devenir ton Sauveur et ton Seigneur. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.